bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs petits sujets dans cet épisode. Le premier sujet qu'on va voir ensemble, c'est... Alors d'abord, je vais faire un petit récap des petites actus que j'ai récupérées. Il y a un petit tuto sympa pour faire mûrir à la perfection ces avocats, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont comme moi, qui consomment pas mal d'avocats et qui sont un petit peu frustrés quand on en achète et qui sont durs et qui veulent pas mûrir, qui restent vraiment durs pendant des semaines presque, et puis à la fin quand ils finissent par mûrir, en fait ils sont pourris. Donc il y aura un petit tuto là-dessus. Ensuite, on va voir quelle alimentation pour prévenir les migraines. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui m'ont fait des remontrances entre guillemets, ou plutôt des qui m'ont posé des questions par rapport à ça, les migraines liées au sport, etc. Mais là, on va voir un petit peu lié à l'alimentation, des petits conseils. On va parler également d'un titre d'un article d'un magazine qui a fait polémique. Et après, je vais traiter deux questions des auditeurs. Alors la première question, c'était: dans un objectif de sèche, que pouvons-nous manger lorsque l'on fait une séance de muscu le matin au réveil? Est-ce que c'est préférable de la faire à jeun ou de manger? Et la deuxième question, c'était: je m'entraîne le soir après le travail depuis 5 ans, mais je suis souvent exténué, fatigué car le travail est très physique. Maintenant que je suis à mon compte, c'est encore pire car je rentre tard. Faut-il que je m'entraîne le week-end? Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça dans cet épisode. On va voir également, je vais vous détailler un petit peu la méthode. Je vais pas vous la détailler, je vais vous parler de ce que j'ai fait ce week-end sur ce fameux programme de 60 minutes qui va avec les contraintes actuelles post-confinement, qui sont de pouvoir s'entraîner que 60 minutes après réservation, etc., etc. Comment on fait pour l'échauffement, comment on fait pour les étirements, comment on fait pour le cardio, comment on fait pour la muscu, enfin bon bref, tout ça, c'est quelque chose que j'ai traité ce week-end. J'en ai parlé ce week-end directement sur le site web. En fait, c'est quelque chose... Je tenais à en parler, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont un petit peu... qui ont tenté de faire comme avant mais plus rapidement, c'est-à-dire qui ont tenté de faire des entraînements, échauffements, étirements, cardio dans une heure, donc dans 60 minutes. Et moi, j'ai proposé plutôt une approche où on s'entraîne pendant 59 minutes sur 60, et donc on va trouver des astuces pour l'échauffement, les étirements et tout annexe. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point du programme que j'ai donné, c'est aussi de voir comment s'entraîner le plus intelligemment possible avec cette reprise, parce que pas mal de personnes ont fait leur grand retour en salle, mais aussi leur grand retour sportif. Ils se sont peu ou pas entraînés durant le confinement. Donc moi, j'ai une stratégie pour les points faibles, etc. Donc du coup, je vous le partage. Donc chaque muscle est considéré comme un point faible dans le programme, c'est-à-dire que j'ai fait un plan complet comme si vous aviez un point faible ischio, quadriceps, épaule, etc., etc., etc. Donc à vous de choisir quel est votre point faible pour avoir les meilleures séances possibles, mais également un plan sur 15 jours pour vous remettre en route. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, même si les salles ont réouvert, elles sont pas encore retournées au sport, elles attendent un petit peu que ça se désengorge, elles attendent de voir si ce phénomène de panique, etc., ou d'affluence se maintient ou alors disparaissent. Donc du coup, il y a ce plan dedans, justement pour ces personnes-là qui veulent reprendre à partir de maintenant. Donc là, on est dans la deuxième semaine. Et voilà. Et après, bon, comme d'habitude, beaucoup de discussions, j'ai essayé d'apporter pas mal de petits concepts. Donc, je vous mets le lien en description avec tous les liens qui sont cités dans cet épisode. Encore une fois, je vous le mets en description. Donc, que vous soyez sur n'importe quelle plateforme de podcast ou sur YouTube, vous avez de quoi aller vous promener dans le petit magazine de liens qui se trouve sous le podcast. Bon, on démarre avec les sujets d'actualité, entre guillemets. Le premier, qui est le petit tuto que j'ai vu sur... alors, c'est le magazine Men Health, mais version américaine, parce que Men Health en France n'existe plus. D'ailleurs, c'est un magazine que j'aimais bien. Alors, il faut avoir suffisamment de recul pour, enfin voilà, les magazines, ça reste des magazines. Il faut avoir suffisamment de recul pour prendre les informations, les laisser pour certaines. Là, quand c'est des petits tutos simples comme ça, il parle justement de cette manière de faire un petit peu mûrir les avocats plus rapidement. C'est quelque chose que pas mal de personnes ont dû remarquer. Moi, je l'avais déjà remarqué. C'est une technique que j'utilise. En fait, je l'avais remarqué un petit peu naturellement. J'avais pas eu besoin de comprendre, mais là, j'ai compris pourquoi, plus ou moins. C'est en fait l'idée de mettre ces avocats avec, par exemple, des pommes, des bananes, etc., au même endroit. Eh ben, ça accélère un petit peu la maturation des avocats. Donc, en fait, eux, ils disent que les fruits et légumes comme les pommes, les tomates, les melons et les bananes mûres produisent un gaz inodore appelé l'éthylène qui accélère la décomposition des aliments qui l'entourent. Et eux, leur recommandation, c'était de mettre dans votre bac à légumes, dans votre frigo, vos avocats, quand ils sont pas mûrs, bien sûr, au milieu de ces fruits et légumes là, pour ainsi accélérer un petit peu la maturation. Alors eux, ils parlent de 2 jours. Moi, je vous recommanderais plutôt déjà de vérifier si vous laissez déjà une nuit comme ça, parce que ça peut aller relativement vite. Et même si vous laissez vos fruits et légumes à l'extérieur, donc à l'air libre, moi plutôt, souvent les fruits sont un petit peu à l'air libre, surveillez-le assez rapidement. Ça peut aller très très vite. Donc voilà, petite technique. Voilà. Et autre chose, moi je vais vous donner mon astuce personnelle, qui est que souvent, quand on consomme des avocats, par exemple, moi j'en consomme le matin, ça m'arrive, donc je vais pas prendre un avocat entier, je vais en prendre un demi, mais qu'est-ce qu'on fait de l'autre moitié? Ben, l'autre moitié, moi ce que je fais, il y a deux solutions. Première solution, je badigeonne un petit peu de jus de citron sur la partie qui est à l'air libre, pour essayer de la préserver un petit peu. Ça marche pas tout le temps, ça noircit, mais bon, voilà, si jamais on a pour but de le manger dans la même journée, ça peut aller. Deuxième astuce, moi, ce que alors souvent, vous savez, les avocats, ils ont un petit autocollant sur la peau. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez coupé votre avocat, vous récupérez la chair de votre demi-avocat que vous allez consommer dans l'immédiat, vous gardez la coque vide, vous la remettez sur l'autre moitié qui n'est pas consommée, et vous utilisez le petit autocollant sur la peau de l'avocat pour bien plaquer l'un contre l'autre. Et avec ça, j'ai remarqué qu'on peut le conserver un petit peu plus longtemps. Donc voilà, c'est une petite astuce de conservation pour justement les avocats. Donc on a vu un petit peu les deux côtés, comment les faire mûrir et comment les conserver un petit peu mieux, parce que c'est toujours un petit peu frustrant. On n'a pas envie de s'envoyer les 300 ou 360 calories d'un avocat d'un coup. Parce que, bon voilà, on n'a pas envie de manger un avocat d'un coup, ça fait un petit peu lourd. Et on n'a pas envie non plus de jeter l'autre moitié parce qu'il va noircir vite. Donc ça, c'est mes astuces de terrain. Enfin, celle-là, en tout cas, c'est mon astuce de terrain pour essayer de le conserver un petit peu plus longtemps. Donc on va voir maintenant un article que j'ai vu directement sur lanutrition.fr, un article de Juliette Pouillat. Alors j'ai noté que, alors les petites choses que j'ai notées, c'est en réduisant la quantité de viande rouge, de viande transformée ainsi que les apports en glucides à index glycémique élevé, des migraineux ont réduit de 30% leur nombre de crises par mois dans une étude d'intervention récente. Alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre pour vous aider un petit peu à comprendre ça? Donc, bon, voilà, je vous passe les protocoles de l'étude, etc. Si vous avez envie, vous allez sur le site pour le voir. Il y a, parmi les conseils nutritionnels donnés, on trouve les suivants. Premier point, utiliser des huiles saines, éviter le beurre, les graisses saturées. Alors, les huiles saines, moi, je vais argumenter un petit peu plus. Les huiles saines, huile d'olive, huile de colza, huile de lin, par exemple. Alors, toutes ces huiles, les huiles de lin, les huiles... l'huile de noix, l'huile d'avocat, toutes ces huiles-là, elles vont avoir tendance à rancir un petit peu vite. Elles sont sensibles à la lumière, sensibles à la température. Donc, faites attention. Si vous achetez ce genre d'huile, prenez-les en tout petit conditionnement, de préférence dans des bouteilles le plus opaques possible, et conservez-les à l'abri de la lumière et, si possible, au frais. Après, l'huile d'olive et l'huile de colza, ça se conserve relativement bien à partir du moment où c'est pareil à température constante, plutôt modéré et à l'abri de la lumière. Donc voilà ce que moi j'appellerais les huiles saines. Ensuite, ils disent consommer des légumes variés et en grande quantité. Bon, voilà ça. Alors il faut savoir qu'une dose de légumes par jour, quand on regarde, vous savez, quand ils disent 3 à 4 portions de légumes par jour, finalement c'est pas ce que les gens pourraient. Ils se disent, ouais, ça fait énorme. En fait, ça représente plutôt entre 600 et 700 grammes de légumes. Donc c'est quelque chose qui est largement faisable sur une journée. Si on mange 300 grammes le midi, 300 grammes le soir, on arrive déjà dans ces quotas-là. Voilà. Donc pour vous donner un ordre d'idée, entre 600 et 700 grammes de légumes par jour, c'est pas mal. Manger des fruits de toutes les couleurs, boire de l'eau, du thé, du café, limiter les produits laitiers, pas plus d'une ou deux portions par jour. Alors sachez une chose, c'est que les produits laitiers, ils sont présents dans beaucoup d'aliments transformés. Mais également quand les personnes ont une alimentation de type cantine, restauration, rapide ou alors... comment dire, les petits les selfs, vous savez, que vous avez au boulot ou alors à la quand vous êtes étudiant, toutes ces choses-là, il y a souvent relativement on va dire fréquemment des produits laitiers. Pourquoi? Parce que dans les crèmes, dans les fromages, dans les yaourts, dans les voilà, dans en fait, quand on se fait un plateau comme ça, ceux qui rédigent les menus s'adaptent forcément à aux recommandations, mais aux demandes des gens. Et vu que les habitudes des Français, c'est beurre, yaourt, fromage, crème, etc., la problématique, c'est que on se retrouve à avoir des fois 3-4 produits laitiers par repas. Donc voilà, eux, ils disent limiter les produits laitiers, pas plus d'une ou deux portions par jour. Bon, dans un contexte fitness, on aurait tendance à se limiter aux protéines en poudre. Éviter les boissons sucrées, ça c'est pas nouveau. Manger des céréales complètes variées et éviter le pain et le riz blanc. Alors, le mot céréales, déjà dans le monde du fitness, il a mauvaise presse. Donc, moi je vous recommanderais plutôt de vous tourner vers des aliments complets. Donc, que ce soit votre riz, même ceux qui consomment encore des pâtes, épeautres, toutes ces choses-là. Enfin, essayez d'avoir des choses plus complètes. Alors complet veut dire qu'il y a l'écorce en fait hein, de l'aliment. Et essayez par défaut en fait de choisir des aliments complets, c'est-à-dire de pas juste votre riz complet ou juste vos pâtes complètes si vous consommez encore des pâtes. Bien que les pâtes, moi je suis pas forcément pour, mais bon, il y en a qui en consomment encore, ça, ils ont pas d'impact au niveau santé, au niveau santé, ils en savent pas grand-chose, mais au niveau digestif, on va dire, ils ressentent pas de méfaits. Et au niveau physique, ils en voient pas non plus les inconvénients. Enfin, en tout cas, ils les perçoivent pas dans le miroir. Donc, du coup, il y en a qui en consomment encore. Mais je vous recommande par défaut de vous tourner vers du complet quand vous le pouvez. Par contre, moi, je suis contre le pain qui soit complet, tout ce que vous voulez. À partir du moment où c'est du pain à base de blé, j'essaie d'éviter au maximum, sauf lors de petites cheat meals de temps en temps. Et même les pains, vous savez, sans gluten, mais à base de farine de maïs ou de farine de riz et tout, c'est pareil. Les IG sont relativement élevés. C'est pas forcément. En fait, il y a des problématiques similaires et différentes. Donc des fois c'est un mal pour un bien. C'est pas le but de leur article aujourd'hui. Ensuite, autre point, consommer des sources de protéines saines. Donc poisson, volaille, légumineuses, noix. Donc en gros, oléagineux, toutes les légumineuses, volaille, poisson. Alors pour moi, c'est non. On peut pas. C'est pas exclusif. C'est pas manger que du poisson ou que de la volaille ou que des légumineuses ou que des noix. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous recommander d'avoir une approche complète. Encore une fois, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une forme d'équilibre. Enfin, un équilibre plutôt entre vos sources de protéines d'origine animale, végétale, etc., et pas d'être exclusivement sur une source comme par exemple tout le temps la dinde, tout le temps le poisson, tout le temps les légumineuses, etc. Bon, après voilà, si vous êtes végane ou végétalien et tout c'est allez, il y a un autre terme encore où les gens mangent du poisson, je me rappelle plus du terme. Enfin bon, bref. Essayez de composer au maximum avec vos contraintes que vous vous imposez à vous-même, d'essayer de varier au maximum les sources de protéines. Ça sera profitable pour votre physique et pour votre récupération et pour votre santé mentale et pour plein d'autres raisons. Limiter la viande rouge, le fromage, les viandes transformées. Bon, ben voilà, encore une fois, il n'y a pas de secret. La viande rouge étant pour moi assez mal comprise, c'est certes, il faut limiter la viande rouge premier prix, 15%, vous savez, toutes ces viandes un petit peu, on va dire, bas de gamme, les viandes rouges qu'on retrouve trop fréquemment, vous savez, dans les préparations et tout. Mais après, de la viande rouge 5%, bio, de temps en temps, et je pense que si vous n'y voyez pas d'inconvénient au niveau éthique, etc., vous pouvez continuer à en consommer, essayer de pas trop la cuire, de pas trop la faire brûler, mais il faut pas que ça soit une dominante. dans votre dans vos choix de protéines. Voilà, ça c'est mon petit conseil. Donc voilà eux ce qu'ils donnent comme recommandation pour les migraines. Donc je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui en souffrent. Allez voir l'article, ça voilà, c'est toujours bon à lire. Et de toute façon, quand on regarde bien, vous savez, il y a toujours diverses problématiques et souvent les recommandations reviennent toujours à la même chose, c'est manger sainement. Donc moi je suis pas contre ces articles-là dans le sens où on a toujours un problème à traiter, quel que soit l'individu. Il y en a qui vont avoir des migraines, d'autres la constipation, d'autres je sais pas tel ou tel problème. Et souvent on voit qu'il y a des grandes lignes au niveau de réflexes alimentaires qui sont communs régulièrement. Bon ben là ils parlent pas des fibres, mais manger plus de céréales complètes et plus de légumes et plus de fruits. La conséquence qui va y avoir, c'est qu'on va manger plus de fibres. Donc souvent on remarquera qu'il y a souvent les mêmes recommandations pour des problèmes divers. Donc moi je trouve intéressant d'attaquer plein de problèmes un peu de niche, si je peux dire, mais finalement on se rend compte que les recommandations sont plutôt les mêmes par rapport à tous ces problèmes là et ça peut amener à, plutôt que de dire à des gens, si vous voulez être en bonne santé, mangez ça et ça, ben non, là on va dire, si vous voulez traiter votre migraine, commencez par adopter des bons réflexes alimentaires. Et je pense que ça peut être une bonne stratégie d'apporter les recommandations de santé nutritionnelle comme ça, parce que ça va permettre aux gens déjà de lire, parce que s'ils sont concernés directement par un problème qui les dérange au quotidien, ça va plus facilement les inciter à lire l'article que si on dit juste soyez en bonne santé, quoi. Voilà. Bon, on continue. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Ah oui, un article qui avait fait une petite polémique entre guillemets. Alors j'avais noté, c'était un article du magazine Elle où il y avait un gros titre qui disait déconfiner ses kilos. Donc après le confinement, en fait, il y a eu des personnes qui ont pris, enfin la moyenne ça a été, alors je lis ce que j'avais noté, l'article se voulait second degré mais il n'a pas fait rire l'ensemble de ses lectrices qui ont surtout vu d'énièmes injonctions faites aux femmes et à leur manière d'entretenir leur corps. Alors que les Français ont pris en moyenne 2,5 kilos durant les 2 mois de confinement, le magazine féminin a cru bon de faire sa une sur la perte de poids avant l'été. Mais ce qui a davantage choqué, c'est la lecture même de l'article et le ton certes sarcastique employé par la rédactrice, la chroniqueuse Alix Giraud de L'Ain, une habituée du genre. Bon, après, je connais pas Alix Giraud, j'ai pas lu son article dans la totalité. Moi, je m'intéresse au fait déconfiner ses kilos, la couverture du magazine qui a fait un petit peu parler d'elle. En fait, il y a toujours une, comme je disais tout à l'heure, moi je suis pas pour ou contre ces genres de choses, le débat m'intéresse peu finalement, mais moi ce que j'observe, encore une fois, c'est que, pour revenir à l'article précédent et le fusionner un petit peu avec celui-là, quand on donne aux gens des recommandations de santé générale, ça ne fonctionne pas. Quand on agit sur un problème qu'ils rencontrent au quotidien, ils ont tendance à plus facilement agir. Il y a un moment donné où il faut pas se mentir. Beaucoup de personnes aimeraient améliorer leur physique et le fait de comment dire. En fait, le cœur en fait du débat, c'était acceptez-vous comme vous êtes, etc. Blablabla. Enfin, toutes ces choses là. Sauf qu'on voit bien beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'accepter telles qu'elles sont. Elles savent qu'elles se sentiraient mieux, elles auraient une meilleure estime d'elles-mêmes et tout, si elles arrivaient à accomplir leurs résultats en termes physiques. Alors si les personnes sont en surpoids, il n'y a pas qu'un côté estime de soi qui va être amélioré si elles s'acceptent mieux dans le miroir, mais il y a également une santé qui va être améliorée, parce que ça a été démontré, c'est pas moi qui le dis, hein, ça a été démontré par des tas d'études, que le tour de taille, donc la graisse viscérale par exemple, c'est fortement lié à votre état de santé métabolique présent et futur. Donc au-delà du côté estime de soi, s'accepter et tout, il y a quand même une dimension santé publique ou comme vous voulez. Donc toutes les personnes qui vous disent acceptez-vous comme vous êtes, avec vos rondeurs, votre surpoids et tout, oui, enfin je veux dire, je comprends ce que les gens veulent dire, mais derrière, il faut aussi dire que ces personnes encouragent le fait de vous laisser en mauvaise santé. C'est là en fait où il faut Qu'est-ce qui est le plus moral dans tout ça? Laisser les gens s'accepter tels qu'elles sont? Mais en fait, les gens, ils demandent rien à personne. Chacun est libre de lire ce qu'il veut. Donc, cet article, cette couverture, moi, personnellement, si je faisais pas de podcast, je l'aurais jamais vu. Moi, personnellement, ça me touche pas. Quand j'étais en surpoids avant, ça ne m'aurait pas touché. Il y a des catégories de personnes que ça touche. Bon, mais il y a aussi ce côté où la problématique d'encourager les gens à s'accepter tels qu'ils sont. Alors, il y a plein de personnes, évidemment, qui sont déjà en bonne forme et qui ont un problème où ils veulent toujours être mieux. Donc là, on tombe un petit peu dans les pathologies Instagram et tout, vous savez, où les gens vont se comparer en permanence à tout ce qui est toujours plus maigre ou plus musclé, etc. Donc là, ça devient pathologique parce que, justement, ils n'arrivent pas à se servir de ça comme motivation positive, mais ça les rend plutôt anxieux et ils se dévalorisent. Donc ça, ça, il faut plutôt chercher à le combattre. Et moi, j'invite les gens plutôt à se tourner vers un développement, de se faire progresser eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire de se comparer aujourd'hui à la personne qu'ils étaient avant, etc. Enfin bon, je vais pas développer ça ici. J'en ai parlé largement dans d'autres podcasts et sur mon site. Mais il y a aussi cette dimension où les gens, ben voilà, ils sont aujourd'hui en surpoids. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose de leur dire « acceptez-vous comme vous êtes ». Parce que, en fait, sans leur donner les « ok, tu peux t'accepter comme tu es, donc ça va te faire du bien, tu vas lâcher prise, tout ça », mais par contre, sache une chose, c'est que si tu t'acceptes comme tu es aujourd'hui, alors que tu es en surpoids, voilà ce qui peut se passer à l'avenir. En fait, il faut donner toutes les cartes aux gens, faut pas leur donner juste les choses qui les réconfortent. Et il y a une toute petite chose qui m'a posé un problème, c'est que souvent, les gens qui réagissent fortement à ce genre de choses, alors que ça soit des hommes ou des femmes ou autres, c'est des gens, on sent qu'ils n'ont pas, ils vivent pas en fait dans la situation réelle des gens qui se sentent mal. C'est-à-dire que c'est des gens souvent qui ont une forte notoriété sur les réseaux sociaux et tout ça, qui ont souvent une belle gueule ou, enfin voilà, qui arrivent à générer ou du like ou de l'abonnement ou tout ce que vous voulez et qui font des grandes leçons de morale. Moi, personnellement, j'ai un petit problème avec ça parce que ces gens-là, ils sont aimés, ils disent qu'ils s'acceptent comme ils sont ou comme elles sont. Ouais, mais en fait, ils génèrent tellement de likes et tout ça qu'ils sont comblés au niveau de leur ego, l'estime d'eux est remontée à bloc grâce à tout ça, donc c'est un peu biaisé. Moi, je préfère parler plutôt aux gens qui sont chez elles ou chez eux, qui n'ont pas justement ce support, on va dire, de likes, etc., derrière, qui les soutient dans leur démarche, qui sont un peu livrés à eux-mêmes, donc qui sont livrés à ce qu'ils vont écouter, à ce qu'ils vont lire, et aux choix qu'ils vont avoir, etc. Et je pense que pas mal de personnes, notamment des personnes en surpoids ou des personnes qui se jugent avoir un physique qui ne leur convient pas, quand ils voient des Instagrammeurs ou Instagrammeuses faire des leçons de morale, acceptez-vous comme vous êtes, alors que ces mêmes personnes sont plutôt belles gosses ou beaux gosses, on se dit non mais en fait t'as raison toi de t'accepter parce que tu te trouves bien. Mais moi, je me trouve pas bien. Donc, j'ai envie de changer. Donc, laisse-moi tranquille. Laisse-moi avoir envie de changer et laisse-moi avancer. Donc, c'est un petit peu mon discours. Et souvent, je me rends compte que ceux qui combattent ce genre de choses-là sont des personnes qui, bon, ben voilà, physiquement, alors, c'est pas des super canons et tout ça. Tous et toutes. Mais il y a quand même cette problématique derrière où c'est très rare de trouver des gens qui ont réussi à combattre, à s'accepter tels qu'ils sont complètement. Et il y a beaucoup de personnes qui se mentent. Et il faut pas oublier, j'avais partagé une étude dans la newsletter des VIP. Eh oui, parce que je vous le dis pas, mais tous les VIP qui sont abonnés à ma plateforme, tous les vendredis, ils ont une newsletter privée où je partage mes petites recherches scientifiques de la semaine et surtout des petits trucs que j'ai découvert, des accessoires, des vêtements, enfin des voilà, c'est pour les VIP, c'est du contenu un petit peu plus exclusif. Enfin bon bref, j'avais partagé une étude comme quoi le fait d'avoir des secrets, des mensonges, enfin bon voilà, des choses qu'on retient, qu'on garde pour nous, qu'on avoue à personne, et même quand on se ment à soi-même, ça a tendance à nous bouffer la vitalité, donc l'énergie. Observez un petit peu quand vous racontez un mensonge pour vous sortir d'une situation ou autre, c'est arrivé à tout le monde, faut pas se mentir, encore une fois, et ben c'est beaucoup plus intense au niveau de la concentration que quand vous racontez une histoire vraie, une histoire vécue qui normalement coule de source plus ou moins, enfin surtout si elle est à date proche. Quand c'est un souvenir lointain, c'est un petit peu plus complexe, mais quand c'est quelque chose qui s'est passé le jour même ou la veille, on a souvent relativement des bonnes facilités à en parler. Mais par contre, quand c'est un mensonge ou qu'on a un secret à garder, ben on doit faire un effort pour pas faire de bourde, de pas raconter, enfin que ça soit cohérent en fait, que la personne en face nous croit tout simplement. Et ça bouffe de la vitalité. Donc je pense qu'il y a beaucoup de par rapport à cette idée de s'accepter et tout ça. Moi, je suis 100% d'accord avec les recommandations qui est de s'accepter comme on est. Il n'y a pas de problème. Par contre, faut pas se mentir à soi-même. Faut pas croire qu'on s'accepte alors qu'on s'accepte pas, parce que ça, par contre, c'est pas bon. Au bout d'un moment, en fait, on va jouer sur deux terrains, c'est-à-dire qu'on va avoir un discours public où on va s'accepter et un discours interne où on va se détester, ou alors ne pas s'accepter. Donc, en fait, le mieux, c'est d'organiser ça. D'essayer d'équilibrer ça, c'est-à-dire de ne pas être dans un extrême ou dans un autre, mais plutôt équilibré, mais surtout de ne pas faire miroiter à certaines personnes qu'il est possible à 100% de s'accepter, alors que on sait qu'on serait en meilleure santé si on faisait plus de sport, qu'on avait un physique, je vais pas dire plus beau à voir, mais plus en santé, c'est-à-dire plus en forme, etc. Et moi, c'est juste sur cette corde-là que je voulais appuyer. C'est qu'on ne peut, enfin, je trouve ça illogique et pas moral de dire à des personnes en fort surpoids de s'accepter, vous êtes très bien comme vous êtes, etc., sans leur préciser le côté risque de santé. Parce que dans ce cas-là, on pourrait dire, le discours, on pourrait l'appliquer à plein d'autres personnes, à plein d'autres pathologies, à plein d'autres réflexes qui sont, on va dire entre guillemets, à l'encontre de la santé, et dire non, mais tu peux le faire. Alors je vous laisse penser aux réflexes de santé, à toutes les choses qui sont nocives pour la santé, possibles et imaginables. Et pensez à n'importe lequel et dites-vous bien, ben voilà, accepte-toi comme tu es, c'est pas grave, etc. Sans avoir derrière le discours, mais par contre, sache que voilà. Et bon, voilà. Moi, je pense que derrière tout ça, faut pas prendre les gens pour des cons. Et surtout, faut arrêter de croire que les gens sont des enfants et qu'il faut leur dire comment penser. Je pense que les gens sont des adultes. Ce magazine a pour but d'être fourni à des adultes. Alors si c'est les adolescentes qui le lisent, bah écoutez, interdisez-les aux jeunes, pas de problème. Mais par contre, je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ils sont assez grands pour savoir ce qui est bon ou pas pour eux, ce qu'ils peuvent encaisser ou pas. Et on retrouve beaucoup ça actuellement où justement les gens ont peur de prendre des positions, etc. Ils veulent protéger tout le monde. Et en fait, cette surprotection, elle est pas bonne parce que il y a certaines personnes qui commencent à petit à petit à croire dans une supériorité qui serait au-dessus, quelque chose qui serait au-dessus d'eux et qui les protégerait de tous les problèmes de la vie. Et moi, je suis un peu contre ça parce que ça amène à devenir un petit peu passif sur des réflexes de sécurité, des réflexes de prise en main personnelle, etc. Et de se dire bon ben, on sera protégé de toute façon par des personnes qui sont là pour veiller sur nous. Ben non, pas forcément. Ces personnes-là sont pas là pour ça. De toute façon, les valeurs de chacun, on ne peut pas solutionner les valeurs de, on peut pas écouter les valeurs de tout le monde, parce que chacun a ses propres valeurs. On n'a pas aujourd'hui, ça c'est Étienne Klein qui en parlait, on n'a pas de cause commune assez forte pour aller tous dans le même sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas, par exemple, lui parler de l'an 2000, etc. Quand il était jeune, tout le monde avait pour but l'an 2000, il pensait que ça allait être génial, etc. Aujourd'hui, on n'a plus ça. On n'a plus cet objectif commun, ce désir commun du futur, hein, quelque chose qui pourrait tous nous rallier, mais on est beaucoup plus dans nos valeurs propres. Donc, il va y avoir les véganes, il va y avoir, je sais pas moi, d'un côté, les gens qui veulent sauver le patriarcat, d'autres qui sont pro-féminisme, d'autres qui sont pour, je sais pas moi, les retraites à tel âge, d'autres qui vont être pour le capitalisme. En fait, il y a plein de comme ça de valeurs différentes, et donc c'est très compliqué justement de créer quelque chose de commun entre tous. Et enfin moi, c'est pas du tout mon objectif, je m'en fous, mais je veux dire il y a quand même, il faut prendre en compte ça, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de débats parce qu'il y a de plus en plus de valeurs différentes et de moins en moins de valeurs communes. On va dire actuellement, sauf que la petite problématique, c'est que les médias et ceux qui peuvent diffuser beaucoup de contenu devant vos yeux, par tous les biais possibles, le cinéma, la télé, les journaux, enfin tout ça, essaye de vous faire avoir des valeurs égales aux leurs. C'est-à-dire qu'ils essayent de vous diriger à avoir des valeurs en vous disant que c'est comme ça qu'il faut penser et pas autrement. Et là, encore une fois, j'en reviens à une chose, c'est vous n'êtes pas des enfants, on n'est pas des enfants, et je pense que c'est prendre un petit peu les gens pour des cons, quoi. C'est les infantiliser, je pense pas que ce soit une bonne technique. Bref, j'avais juste, voilà, c'était ma petite réaction par rapport à cet article. Je pense pas que un titre comme Déconfiner ses kilos soit nocif. Si jamais il l'est par rapport aux gens, si vous vous sentez offensé par ce genre de titre, moi je vous invite personnellement à suivre. Il y a plein de thérapies qui existent aujourd'hui, des thérapies sur l'acceptation, etc. Je vous invite à faire une thérapie comme ça, à vous tourner là-dessus. Je pense que ça pourra plus vous aider. Et en parallèle aussi de lire sur la nutrition saine, etc. Mais ça pourra plus vous aider que de vous laisser protéger et d'essayer d'interdire ce genre de choses. C'est mon point de vue. Après, je préfère travailler sur quelque chose qui aide réellement les gens plutôt que de les protéger. En fait, ce serait comme essayer de ne jamais faire de cauchemars et de toujours faire des rêves, de voir que ce qui est joli et d'essayer de transformer un monde en monde de bisounours. Mais ça n'existe pas. Il y aura toujours des moments qui seront un petit peu plus compliqués que d'autres et de faire croire aux gens qu'on peut tout nettoyer, tous ces moments sombres. Non, on peut pas vraiment. Donc, mieux vaut plutôt s'y préparer et devenir un petit peu plus fort par rapport à ça pour pouvoir les affronter. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Après, bon, voilà, chacun est libre de penser comme il veut. Et deuxième chose différente, mais qui m'a fait un peu rire, parce qu'en fait, vous savez, quand on lit un article, souvent dessous, il y a des choses qui sont un petit peu en lien, ou alors, et je trouvais ça intéressant, parce que là, on voyait déconfiner ses kilos, etc., c'est pas bien, ça a été attaqué, donc c'était le magazine Elle, et juste dessous, il y avait les conducteurs de voitures haut de gamme sont des connards, et c'est la science qui le dit. Le chercheur a fini, alors là j'ai noté une partie de l'article, le chercheur a fini par conclure que les hommes individualistes qui sont les plus querelleurs, bornés, désagréables et dénués d'empathie sont naturellement attirés par les voitures ostensiblement puissantes et haut de gamme de type Mercedes, Audi ou BMW. Bon, j'ai jamais eu de Mercedes, mais j'ai eu deux Audi et trois BMW. Donc, bon, ben, malheureusement, je suis querelleur, borné, désagréable et dénué d'empathie. C'est problématique pour moi parce que, bon, voilà, vous avez en face de vous une personne comme ça. Bon, et là, c'est du second degré, je m'en fous. Mais ça montre bien que il faut pas, comment dire, si j'étais un petit peu sensible par rapport à ça, je me serais offusqué par rapport à cet article et je me serais un petit peu énervé. Mais pas du tout, en fait je m'en fous, mais je trouve ça justement intéressant de voir ce genre d'article qui peut orienter finalement la pensée de personnes, de certaines personnes, et donc du coup créer après un ressenti, un comportement un petit peu bizarroïde, comme si en fait cet article-là pouvait, comment dire, me définir mes propres traits de caractère. C'est quand même intéressant. Bref, on va revenir un petit peu au sujet du podcast. Faut pas oublier qu'on parle ici de fitness, de nutrition et tout ça. J'aime bien parler de psychologie, de sociologie, de philosophie, de tous ces trucs-là aussi. Mais le thème du podcast, c'est quand même le style de vie, pour être en forme et pas de vie. Et on va passer aux questions des auditeurs. Première question. Dans un objectif de sèche, que pouvons-nous manger lorsque l'on fait une séance de muscu le matin au réveil? Ou est-il préférable de faire à jeun le sport? Alors, dans un objectif de sèche, alors je précise rapidement, dans le podcast, je vais répondre le plus simplement possible. Je vais pas rentrer dans une heure de développement comme je ferai dans mes formations sur le site, mais réellement, je vais essayer de répondre le plus rapidement possible. Tu es dans un objectif de sèche. Moi, je répète souvent que les calories, toutes ces choses-là, c'est bien beau, mais il faut se concentrer sur quelque chose que peu de personnes parlent, et même j'ai vu personne en parler, vraiment, en tout cas, rentrer dans le cœur du problème, c'est quelles sont, dans ta journée, les opportunités que tu as de brûler du gras. Au lieu de te concentrer sur le nombre de calories, la diète, le machin, as-tu dans ta journée des moments où tu as des opportunités de brûler du gras? À partir du moment où oui, Donc par exemple, tu restes un certain nombre de temps sans manger, c'est une opportunité de brûler du gras. Tu fais du sport avec un repas assez loin avant de ton entraînement, et la digestion sera beaucoup plus avancée, donc tu auras plus d'opportunités d'atteindre tes réserves d'énergie, donc ton gras stocké, et ton glycogène également. Donc du coup, tu vas avoir plus de chances à terme de brûler du gras. Donc toutes ces choses-là, pour moi, c'est ce que j'appelle les opportunités de brûler du gras, donc laisser à son corps le temps d'avoir une opportunité de brûler du gras. Donc si tu démarres le sport le matin à jeun, c'est une opportunité de brûler pas mal de gras, mais également tu vas cataboliser. Donc si ton objectif est de perdre le maximum de gras possible, tu peux faire du sport à jeun, pas de problème. À toi de voir, il y a des personnes qui en faisant du sport à jeun ne catabolisent pas trop au niveau de leur masse musculaire et d'autres qui fondent comme neige au soleil. Faut faire attention aussi quand on se déstocke au niveau du glycogène, donc qu'on se vide un petit peu au niveau des réserves de glycogène musculaire, on a tendance à s'aplatir un petit peu, ce qui ne veut pas dire qu'on a perdu du muscle, mais qui veut simplement dire qu'on a perdu du volume musculaire, qui n'est pas la même chose. Le volume musculaire, c'est l'apparence du muscle que vous pouvez voir, qui est à la fois la masse musculaire, mais aussi la rétention hydrique et glycogénique que vous avez au niveau de vos muscles. Donc du coup, c'est ce qui va donner cette apparence ronde, cette apparence globuleuse à vos muscles, etc. Bon bref, quand vous faites une sèche, vous voyez bien que vous avez tendance à vous aplatir un petit peu. Toi, si tu veux faire une sèche et que tu vois que l'entraînement à jeun t'est profitable, pourquoi pas? Par contre, ma seule recommandation que je te donnerai, c'est de ne pas oublier de manger et pas une collation liquide. Tu peux faire une collation liquide directement après ton entraînement à jeun, puis de faire un petit déjeuner solide dans la demi-heure après, mais ne saute surtout pas le repas après. N'essaie pas de faire la nouvelle méthode. Je sais pas pourquoi je reçois beaucoup de mails et de messages par rapport à ça, qui sont de carrément de rien prendre après l'entraînement pour sécher au mieux. La récupération va être impactée, tu vas avoir du mal à bien récupérer au niveau de ton énergie, hein, je te le dis tout de suite, si tu fais ce protocole-là. Donc, mange toujours après un entraînement, qu'il soit à jeun, pas à jeun, tout ce que tu veux, surtout si c'est un entraînement de type muscu. Après, si tu veux faire un petit déjeuner avant ta séance de muscu et que tu veux quand même sécher, c'est possible. Et je veux dire, il te reste d'autres opportunités. La nuit, tu manges pas, donc tu perds du gras. Il te reste toute la journée où si tu gères bien ta diète, le timing, par exemple, entre le midi et l'après-midi, entre le repas du midi et le repas du lendemain matin, si tu consommes pas d'hydrates de carbone, bah, t'as des chances de brûler un petit peu plus de graisse aussi. Ça, c'est à toi de voir. Mais ton petit déjeuner, par contre, si tu veux brûler le maximum de graisse pendant ta séance, je te déconseille d'avoir un petit déjeuner riche en glucides. Voilà, ça c'est mon conseil, et en glucides et en graisse, trop lourd en graisse également. Donc essaye plutôt d'avoir un apport en protéines maigres, un petit peu de fibres, mais pas trop, parce que sinon ta digestion va te déranger. Donc si tu te réveilles dès le matin et que tu fais ton petit déjeuner solide, ça va toujours être plus handicapant au niveau de ton énergie, de ta vitalité. Pourquoi? Parce que tu vas être en phase de digestion. Essaye d'avoir un petit déjeuner ou relativement tôt, c'est-à-dire au moins une heure avant ton entraînement. Et si tu ne peux pas le faire, essaye de plutôt d'avoir un apport calorique liquide. Donc, je sais pas, moi, un peu de poudre d'avoine, pas trop, et pas mal de protéines. En poudre, par exemple, ça peut faire un apport liquide, calorique, intéressant avant l'entraînement. Mais par contre, si tu veux brûler le maximum de gras, ben voilà, essaye de rester sur des protéines, une petite protéine à digestion lente, par exemple, si tu la tolères, et des BCA peut-être pendant l'entraînement aussi, ça peut aider un petit peu à essayer de contrer un petit peu l'excédent de catabolisme, si je peux dire les choses ainsi, même si c'est un peu barbare de parler comme ça. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est vraiment ce que tu vas manger après, de manière à pas te mettre dans un état pas immédiat, mais à moyen long terme d'épuisement intense et de manque de récupération. Donc, dans un objectif de sèche extrême, l'entraînement à jeun est plus intéressant à mon sens. Ça, c'est mon point de vue. Après, ça peut être intéressant aussi de consommer une petite protéine avant l'entraînement pour justement stopper le catabolisme de la nuit. Enfin, en tout cas, tenter de le réduire, tenter de le freiner un petit peu avant de démarrer sa séance, quoi. Faut savoir une chose, de toute façon, c'est que si tu fais un entraînement à jeun ou avec peu de calories ou même en sèche, de toute façon, la perte de muscle, elle va être là. Ça diffère selon les individus. Faut voir si pour toi, la perte de graisse est vraiment une grosse priorité. Sache une chose, que c'est aussi beaucoup la qualité de tes entraînements et l'intensité de tes entraînements qui va faire que tu vas perdre moins de muscles que un taux de protéines ou quoi que ce soit. Donc voilà pour ma réponse à ta question. Sache que si ça t'intéresse, j'ai des heures et des heures et des heures de formation sur la sèche. Faut savoir que moi, je suis un ancien gras du bide. Donc, j'ai été longtemps en surpoids. Longtemps, j'ai pas voulu enlever mon t-shirt à la piscine et tout ça. Donc, je peux te dire une chose, c'est que si tu veux voir un petit peu tous les outils que je propose, va regarder mon site, va regarder les liens qui sont en description. Deuxième question. Plombier chauffagiste, je m'entraîne le soir après le travail depuis 5 ans. Mais je suis souvent exténué, fatigué, car le travail est très physique. Maintenant que je suis à mon compte, c'est encore pire, car je rentre tard. Faut-il que je m'entraîne que le week-end? Alors, je vais essayer de te répondre au mieux selon ma propre expérience. Déjà, je suis à mon compte depuis des années maintenant, donc je peux te dire que il y a un stress. En fait, quand on n'est pas encore à son compte, on n'imagine pas les inconvénients d'être à son compte. C'est-à-dire qu'on pense que le stress ressenti quand on est salarié sera égal, voire moins présent que quand on sera à notre compte. C'est faux. Déjà, la nature du stress n'est pas la même, puisque quand on est salarié, le stress long terme de la sécurité de l'emploi disparaît. Enfin, en tout cas, quand on est en CDI, encore plus quand on est fonctionnaire. Quand on est à son compte, on a une anxiété légère, mais permanente pour la réussite long terme. Donc, est-ce que je vais être capable de remplir le frigo longtemps, pendant longtemps? Alors, c'est pas fort, c'est pas aigu, mais c'est présent. Et ce qui est nécessaire, sinon, c'est un petit peu comme avant, si on n'avait pas cette petite dose d'anxiété de savoir comment on va manger, eh ben, on se bougerait pas le cul pour aller chasser, cueillir ou faire pousser des aliments, etc. Bref. Donc, il y a cette différence, c'est-à-dire que l'origine de ton anxiété, de ton stress n'est plus la même. Donc, du coup, il faut apprendre à la gérer, faut la comprendre, faut trouver des solutions pour se sécuriser par rapport à ça. Deuxième chose, tu as un travail physique, et c'est là où je vais travailler sur quelque chose avec toi. J'ai eu plusieurs travails physiques dans mon passé. J'ai fait du déménagement, j'ai fait de la préparation de commandes, j'ai fait de la manutention diverse dans de la fourniture de chantier. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été dans la mécanique poids lourd, j'ai été dans la carrosserie automobile. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme autre métier un peu taxant comme ça? Attendez, je réfléchis. Oui, j'ai même été parfois monter ponctuellement des machines de sport dans des salles de sport. Donc, je peux vous garantir que ça, c'est une des tâches les plus physiques, bien que ce soit dans des environnements agréables. C'était une des tâches les plus physiques. Mais bon, la mécanique poids lourd, quand même, c'était solide. Je me souviens, changer des roues de camion. En fait, sur les poids lourds, tout est plus gros, tout est plus serré, tout est plus intense. Et je me souviens que à chaque fois, je vous raconte l'anecdote, mais je pense que pour les plus récents, les plus nouveaux sur le podcast, la connaissent pas. Je devais avoir 18-19 ans et je faisais déjà de la muscu depuis 2 ans à peu près, et en fait j'avais déjà ce physique charpenté par la musculation, mais j'étais gras, comme je vous ai dit. Je savais pas ce qu'était un régime, je savais pas comment c'était de bien manger. Pour moi, c'était il faut manger, il faut bouffer. Donc j'étais à l'époque, c'était vraiment aller au, comment ça s'appelait, enfin je pense que ça existe toujours, mais Buffalo Grill, et avec mes potes on se prenait, pour ceux qui ont connu, le demi poulet Kentucky. Je sais pas si vous vous rappelez, peut-être qu'il existe encore d'ailleurs. Et en fait, le truc, c'était de prendre ce plat là après une séance de muscu. Donc voilà, un petit peu, pour nous, c'était ça, manger pour prendre du muscle. C'était du steak premier prix, 4 steaks d'un coup, voire plus des fois, des œufs, des pâtes, et puis pour que ça passe, un peu de gruyère râpée par-dessus, et puis évidemment de la crème. Mais bon, les légumes n'existaient pas, les fruits n'existaient pas. Les suppléments étaient chers. Je me souviens que les suppléments... Mais après, si vous aimez les anecdotes comme ça, peut-être que je pourrais vous en faire une par podcast, c'est à vous de me dire. Mais en tout cas, cette anecdote, pourquoi je vous en parle? Parce que j'avais un physique très gras et bien charpenté. Et donc, du coup, pour mon jeune âge, entre guillemets, j'étais bah, celui qui avait les plus gros bras de l'entreprise. C'était une entreprise de transport, même s'il y avait des routiers et tout, j'étais celui qui avait les plus gros bras. Et donc, du coup, au lieu de, il n'y avait pas d'admiration, hein, c'était de la taquinerie. Et je peux vous garantir que dans un milieu comme ça, quand vous avez des gros bras, eh ben, on vous dit, bah, c'est toi qui as des gros bras, va me chercher ça. Toi qui as des gros bras, décharge-moi le camion. Toi qui as des gros bras, bah, t'as qu'à me porter ça. Donc, c'était plutôt un inconvénient plutôt qu'un avantage. Et donc, un petit peu le rite de passage qu'il y avait là-bas, le chef d'atelier m'avait dit, ce que tu vas faire, c'est que tous les pneus usés qu'il y a là-bas, donc des pneus de camion, hein, je vous laisse imaginer ce qu'est le poids d'un pneu de camion, un seul déjà. Donc tu vas me prendre l'intégralité des pneus qu'il y a là-bas, donc je vous garantis qu'il y avait une pile monstrueuse, et tu vas me les charger dans un semi-remorque, et pas une petite remorque, pas un camion porteur, hein, je vous parle bien d'une remorque, d'un semi-remorque, les longues remorques que vous voyez sur l'autoroute là. Eh ben, il fallait que je classe, enfin que je stocke tous ces pneus, avec et pas mis à l'arrache, hein, il fallait optimiser l'espace de chargement, le volume de chargement, etc. Donc il fallait que je les mette un petit peu en épi les uns contre les autres au fond du camion, puis revenir comme ça. Et donc alors les pneus en bas, ça allait, on les faisait rouler, je pouvais les faire rouler puis après les caler. Mais quand il fallait que j'aille en haut, je vous rappelle que je mesure 1m75, je suis pas petit mais je suis pas grand non plus, le porte-à-faux, enfin je veux dire, quand il fallait que je soulève les pneus, moi les épreuves d'homme fort de lever la pierre d'Atlas, c'était un petit peu la même chose avec un pneu, mais ça, fois je sais pas combien, je comptais même pas le nombre de pneus qu'il fallait que je porte en hauteur comme ça, et il fallait que je le fasse. Donc c'était un petit peu le rite de passage. Je sais pas pourquoi j'en suis venu à parler de ça, enfin si, je me rappelle maintenant, c'est par rapport à ta question initiale, et c'était un petit peu le rite de passage. Si on était capable de le faire, bon ben on gagnait un petit peu le respect. Et c'est vrai que quand j'ai été capable de remplir une remorque complète, bah j'ai un petit peu, j'ai senti qu'aux yeux du chef d'atelier, il s'était légèrement un petit peu adouci avec moi. Bref, tout ça pour dire que après une journée comme ça, j'allais faire de la muscu. Et ça représentait pas l'intégralité de ma journée. Il y avait également charger des camions, réparer certaines choses, poncer des ailes et les réparer, au tire-clou, etc. Rattraper une bosse à droite à gauche. Enfin bon, bref, voilà, il y avait quand même un travail physique plus la séance de sport le soir. Je pense que j'étais tellement déterminé à l'époque que quasiment rien aurait pu m'empêcher de faire du sport. Deuxième chose, je mangeais beaucoup et je dormais correctement. Donc du coup, j'avais dans ma journée un apport calorique largement suffisant pour ma récupération, un sommeil récupérateur. Je n'avais pas d'enfant, je n'avais pas de vie de famille, je n'avais pas forcément de problématiques à gérer autres que rien du tout, en fait, le stress d'un jeune adulte de 18-19 ans. Donc, moi, je pense que la fatigue par le travail très physique n'est pas forcément le premier point. C'est souvent les sources de stress qu'on a autour qui peuvent faire la différence. Parce que quand on est vraiment motivé, quand on s'alimente correctement, etc., il n'y a pas trop de problématiques. Toi, tu me demandais, est-ce que c'est bien si je m'entraîne que le week-end? Évidemment que si tu t'entraînes que le week-end, c'est mieux que pas du tout. Mais moi, je serais plutôt d'avis pour toi de faire tes deux entraînements le week-end, pas de problème, mais d'essayer quand même de trouver un moment dans la semaine pour faire un ou deux entraînements, pour essayer de t'approcher des 3-4 séances par semaine, pour essayer d'être plutôt cohérent avec tes objectifs. Plombier chauffagiste, c'est un métier qui est quand même assez contraignant, il y a des charges, etc., mais c'est surtout que si toi t'acceptes de faire le boulot que les autres veulent pas faire, du genre aller dans les vides sanitaires et tout ça, à quatre pattes, ben certes tu gagnes plus ta vie, mais par contre tu t'épuises un petit peu plus. Moi je pense que la musculation peut t'apporter par rapport à ça, notamment pour ta bonne santé, mais arrêter peut-être aussi d'attendre lors de tes séances de musculation une intensité maximale. Tu peux parfois aller à l'entraînement même si tu as une fatigue physique et travailler par exemple sur du gainage, sur des abdos, sur des petits muscles comme les mollets, comme l'arrière d'épaule, comme des muscles que tu juges faibles, je sais pas, par exemple les abdos si c'est ton cas, j'en sais rien, de travailler des points faibles en plus léger, en série plus longue peut-être, mais d'essayer de continuer à aller à la salle. Parce qu'il y a une forme de dynamique aussi qui fait que quand tu prends l'habitude d'aller t'entraîner même après une journée fatigante, tu deviens capable en fait de ça, un petit peu comme si le corps s'habituait, un petit peu comme tes mains, tu sais, la cale que t'as aux mains à force de manier tes outils ou tirer des barres lourdes ou soulever de terre, eh ben en fait c'est ton corps qui a réagi par rapport à la contrainte que tu lui as imposée. Et aujourd'hui, ça te fait quasiment plus mal parce que justement, t'as cette cale, t'as cette corne qui s'est créée sur les mains, pareil sur tes pieds. Et donc, du coup, tu peux résister à ça. Ben, c'est un petit peu pareil avec le sport. Tu vas pas te surentraîner, tu vas pas te surépuiser à faire ça à partir du moment où tu as solutionné pas mal de sources de stress et surtout que tu manges correctement et que tu dors correctement. Je pense que le corps humain peut encaisser beaucoup à partir du moment où justement, il a pas des fuites de vitalité. Dans un mauvais sommeil, dans des sources de stress inutiles, etc. Donc voilà, c'est mon conseil. Moi, je pense que tu tireras pas beaucoup d'avantages à supprimer toutes tes séances de sport dans la semaine. Je pense que plutôt, il faut que tu les équilibres par rapport à ta vitalité et surtout que tu travailles à ta vitalité propre. Moi, j'ai un pote qui est garagiste à son compte, qui a pas mal de stress, qui fait des très grosses journées et qui le soir va au sport, a réussi à faire son régime et tout, pas de problème. Donc du coup, il y a des exemples, c'est possible. Mais encore une fois, voilà. Et peut-être que pour toi, ben, le sport, ça serait peut-être plus le matin, justement avant ta journée de boulot. Parce que quand t'as des journées de travail très physiques, c'est peut-être plus facile, et je te le confirme, plus facile de tenir une journée après une séance de sport intense parce qu'en fait, après une journée de travail intense, ta motivation, j'en perds mes mots, ta motivation et ta volonté en a pris un coup. Donc du coup, déjà, le simple fait de te dire que tu vas aller à la séance va être plus compliqué. Alors que si tu démarres par ta séance, donc ça t'engage peut-être à te lever un peu plus tôt ou faire des séances plus courtes mais plus intenses le matin, 30 ou 45 minutes par exemple, eh ben au moins c'est fait, le job est fait. Après, tu fais ta journée de travail et tu verras que c'est possible. Parce que par exemple, même si tu fais une grosse séance de cuisses le matin, tu te rendras compte que tu vas être capable de tenir ta journée. Mais tu vas avoir des « oula, je sens que j'ai fait les cuisses », mais ça va, tu vas tenir. Ce qui pose problème souvent, c'est la motivation, le fait de devoir se dire « allez, j'y vais, je vais à la salle ». Voilà. Bon, je m'arrête ici pour ce podcast, j'en ai assez dit. Vous pouvez poser vos questions comme les auditeurs, il y a le lien en description. La description, c'est comme un petit magazine en fait. Il y a plein de petites choses à aller regarder, des petits tips, des petits conseils, des petits liens. Allez regarder cette foutue description, personne va la voir, mais allez le faire. C'est un petit peu comme un magazine, comme je vous dis, et vous regardez l'article qui vous convient. Il y a même un endroit pour poser vos questions. J'essaie de vous faciliter la vie en fait dans cette description pour que vous puissiez en un clic aller là où il faut. Donc allez voir. On se retrouve au prochain épisode et merci à tous pour vos récents avis, que ce soit sur Google ou ailleurs, ça me fait très plaisir. Je vous lis tous, je ne peux pas vous répondre à tous malheureusement, mais je vous lis tous et sachez une chose, c'est que ça me fait vraiment très plaisir. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, le programme en 60 minutes par jour, il est disponible depuis avant-hier, allez le voir, bye bye.
Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.